Exposé des sept tâches de l'Église. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu de sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère de sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. » Introduction au chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. L'écrivain, et non l'auteur de ce livre, est l'apôtre Jean. Les historiens s'accordent à dire qu'il a passé la fin de sa vie à Éphèse, bien qu'au moment de la rédaction de ses livres, il s'est trouvé sur l'île de Patmos. Ce livre n'est pas la biographie de Jean, mais la révélation de Jésus-Christ dans les futurs âges de l'Église. Au verset 3, il est appelé une prophétie, et c'est bien ce qu'il est. On a coutume de désigner ce livre comme l'Apocalypse de Jean, ce qui est incorrect. C'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus lui-même, par le moyen de son apparition en personne à un écrivain. C'est le dernier livre de la Bible, cependant il annonce le commencement et la fin des dispensations de l'Évangile. Or le mot grec traduit par révélation, c'est Apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. C'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des sept âges de l'Église qui était à venir. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour les vrais croyants de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous souvenez-vous de Matthieu chapitre 16, où Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole et dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. » Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de régner le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans les péchés. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation, sur l'ainsi dit le Seigneur. Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir les sacrifices qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Quand il n'a pas eu une telle révélation, pourtant il avait reçu l'ordre. Alors il ne pouvait pas offrir les sacrifices qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Or, j'ai dit que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus et de ce qu'il fait dans les églises de cet âge. C'est une révélation parce que les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas les vérités qui y sont consignées. Cela ne leur avait pas été révélé auparavant. Vous vous souvenez que, dans les livres des Actes, ils sont allés demander à Jésus, « Est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il a répondu, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. » Ces hommes avaient encore en tête le royaume terrestre de Jésus. Mais le royaume qu'il allait édifier était un royaume spirituel. Il ne pouvait même pas leur dire quelle place il aurait dans ce royaume, car le Père ne lui avait pas révélé. Mais ici, après sa mort et sa résurrection, dans cette phase précise de son ministère de médiation, il peut exposer dans cette révélation de lui-même qu'il donne à Jean ce que vont être sa gloire et sa présence dans l'Église et ce qu'elles vont faire. Dans cette révélation, il nous fait connaître la fin du diable. Il explique comment il en finira avec les diables et les jettera dans les temps de feu. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan, et Satan a horreur de cela. Avez-vous déjà remarqué que Satan déteste deux livres de la Bible plus que tous les autres? Par le monde des théologiens libéraux et des pseudo-scientifiques, il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Dans ces deux livres, nous trouvons l'origine de Satan, ses abominables voies et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué, et dans ces deux livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus a dit de Satan, « Il n'a rien en moi et je n'ai rien en lui. » Le diable aimerait prouver le contraire, mais comme il ne le peut pas, il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Mais quand l'Église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'Esprit, alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je prendrai ici un exemple tiré de mon propre ministère. Vous savez, tous ces dons qui se manifestent dans ma vie est un don spirituel. C'est un don par lequel le Saint-Esprit est capable de discerner le maladie, le pensée du cœur et d'autres choses cachées que seul Dieu peut connaître et qu'il me révèle. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés et voir l'expression qui transparaît sur les visages des gens quand Satan sait qu'il va être dévoilé. Je ne parle pas ici des gens eux-mêmes, mais de Satan qui a une emprise sur leur vie par les péchés, l'indifférence et la maladie. Si vous pouvez voir leur visage, Satan sait qu'il va être dévoilé et l'expression des gens change de façon surprenante. Satan a peur il sait que ses œuvres sont sur le point d'être révélées aux gens par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il déteste tant nos réunions. Que des noms soient prononcés et des maladies révélées, Satan a horreur de cela. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de la lecture des pensées, ni de télépathie, ni de sorcellerie. C'est une révélation par le Saint-Esprit. C'est la seule manière pour moi de connaître ces choses. Évidemment, les esprits charnels appelleront cela n'importe quoi sauf le Saint-Esprit. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre La Révélation de Jésus-Christ dans l'Église. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il ne change pas. Il en sait bien plus là-dessus que n'en savent 90% des théologiens. Il sait que, puisque Dieu est immuable dans sa nature, il est tout aussi immuable dans ses voies. Satan sait donc pertinemment que l'Église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable Église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres sont fausses, inévitablement. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans les cadres de l'Église chrétienne, et que par l'Esprit de Dieu, ils distinguent l'Esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face à cette Église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd'hui qu'elle a été au désert, quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour les soumettre à son pouvoir. Oui, Satan déteste la révélation. Mais nous, nous l'aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous, mais nous, nous prévaindrons contre elles. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation sans qu'on ne pouvant pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a de la faculté de discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel, pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'Esprit, pour entendre et pour connaître. Comme je l'ai déjà dit, ces livres, l'Apocalypse, est l'accomplissement final des Écritures. Même dans les canons bibliques, il est placé à la fin, exactement là où il doit être. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque les lit ou même entend ce qui est dit est béni. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur les diables. Et vous comprenez pourquoi ceux qui ajouteraient ou en retrancheraient quelque chose seraient maudits. Il en est nécessairement ainsi. Car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite de Dieu, tout en ayant la victoire sur l'ennemi? C'est aussi simple que cela. Rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation et la parole. Voyez, au verset 3, une bénédiction est prononcée sur ceux qui accordent une attention particulière à ces livres. Je pense qu'il y a ici une référence à l'habitude qu'avaient les sacrificateurs de l'Ancien Testament de lire la parole devant l'Assemblée le matin. Voyez-vous, comment beaucoup de gens ne savaient pas lire. Les sacrificateurs devaient leur faire la lecture. Du moment que c'était la parole, la bénédiction était là. Qu'importe si c'était lu ou entendu. Le temps est proche. Auparavant, le temps n'était pas proche. Dans la sagesse et le plan de Dieu, cette puissante révélation, bien qu'entièrement connue de Dieu, n'avait pas pu être apportée jusque-là. Aussi défendons-nous immédiatement un principe. La révélation de Dieu pour chaque âge ne peut venir que dans l'âge en question, et à un moment précis. Considérez l'histoire d'Israël. La révélation de Dieu à Moïse n'est venue qu'à un moment précis de l'histoire, et même plus précisément au moment où les gens criaient à Dieu. Jésus lui-même, qui était la révélation complète de la divinité, n'est venu que lorsque les temps ont été accomplis. Et dans cet âge-ci, celui de Laodicée, la révélation de Dieu viendra au temps fixé. Elle ne faillira pas et ne sera pas prématurée non plus. Réfléchissez à cela et tenez-en bien compte, car nous sommes aujourd'hui au temps de la fin. La salutation. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Ce mot Asie désigne en fait l'Asie mineure. C'est un petit territoire dont les dimensions avoisinent celles de l'État d'Indiana. Ces sept églises ont été choisies parmi toutes les autres églises à cause de leurs caractéristiques qui allaient se retrouver dans les âges successifs, des siècles plus tard. Les sept esprits qui sont devant le trône sont l'esprit qui était dans chacun des sept messagers qui leur donnait leur ministère pour l'âge dans lequel chacun d'eux vivait. Or, toutes ces expressions, celui qui est, celui qui était, qui vient, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, et le tout-puissant, sont les titres et les descriptifs d'une seule et même personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a lavé de nos péchés dans son propre sang. L'Esprit de Dieu dans Jean utilise ces termes pour exprimer la divinité suprême de Jésus-Christ et pour révéler la divinité que Dieu eut un seul. Aujourd'hui, une erreur grossière à court, qui consiste à croire qu'il y a trois dieux, au lieu d'un. Cette révélation, telle que Jésus lui-même l'a donnée à Jean, corrige cette erreur. Ce n'est pas qu'il y ait trois dieux, mais un seul Dieu avec trois fonctions. Il y a un seul Dieu qui a trois titres, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà la puissante révélation qu'avait l'Église primitive et qui doit être rétablie en ces derniers jours avec la formule correcte pour le baptême d'eau. Les théologiens modernes ne seront pas d'accord avec moi, car voici ce qu'écrit un magazine chrétien. Cet enseignement, celui de la Trinité, est un point absolument central de l'Ancien Testament. Il est tout aussi central dans le Nouveau Testament. Tout autant que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est opposé à l'idée qu'il n'y aura plus qu'un seul Dieu. Cependant, le Nouveau Testament nous enseigne tout aussi clairement que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, et que ce ne sont pas trois aspects de la même personne, mais trois personnes ayant entre elles une relation de personne à personne. C'est là la glorieuse doctrine des trois personnes en un seul Dieu. Il déclare également, Dieu d'après la Bible n'est pas seulement une personne, mais il est trois personnes en un seul Dieu. C'est là le grand mystère de la Trinité. Mystère, en effet, comment trois personnes peuvent-elles être un seul Dieu? Non seulement qu'il n'y a aucun passage biblique qui l'appuie, mais cela dénote même une lacune du raisonnement. Trois personnes distinctes, bien qu'identiques dans leur substance, font trois dieux, où le langage n'a plus aucun sens. Écoutez encore ces mots. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il s'agit bien de la divinité. Il ne s'agit pas d'un simple prophète, d'un homme. Il s'agit de Dieu. Ce n'est pas la révélation des trois dieux, mais d'un seul Dieu, le Tout-Puissant. Au commencement de l'Église, ils ne croyaient pas en trois dieux. On ne trouve aucune croyance de ce genre chez les apôtres. C'est après l'âge apostolique que cette conception a été introduite, et c'est au Concile de Nicée qu'elle est devenue un point de débat et une doctrine cardinale. La doctrine de la divinité a provoqué un schisme à Nicée, et ce schisme a abouti à deux extrêmes. D'un côté les polythéistes, qui croyaient en trois dieux, et de l'autre les unitaires. Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est là qu'on en est arrivé. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais la révélation adressée par l'Esprit aux églises, par entremise des gens, disait « Je suis le Seigneur Jésus-Christ et je suis la totalité. Il n'y a aucun autre Dieu. » Et il scelle cette révélation de son sceau. Réfléchissez à ceci. Qui était le Père de Jésus? Matthieu chapitre 1 verset 18 dit Marie s'est trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais Jésus lui-même affirmait que Dieu était son Père. Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont des termes que nous employons souvent Et nous constatons ici que le Père et l'Esprit sont un. Ils le sont en effet, sinon Jésus aurait eu deux pères. Toutefois, notez que Jésus a dit que lui et son Père sont un, pas deux. Cela fait un seul Dieu. Puisque l'histoire et les Écritures nous disent que ceci est vrai, on se demandera d'où est venue l'idée qu'il y en a trois. C'est devenu une doctrine fondamentale au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Cette trinité, mot qu'on ne trouve nulle part dans l'Écriture, est issue du polythéisme de Rome. Le Romain avait de nombreux dieux, il priait. Il priait également des ancêtres, considérés comme des médiateurs. On a tout bonnement donné aux anciens dieux de nouveaux noms, et ainsi on a donné pour l'avoir l'air plus proche de la Bible. Par conséquent, au lieu de Jupiter, Vénus, Mars, ainsi de suite, nous avons Paul, Pierre, Fatima, Christophe et bien d'autres. Comme leur religion païenne ne pouvait pas s'accommoder d'un seul Dieu, ils l'ont partagé en trois. Ils ont fait des saints leurs intercesseurs, comme ils l'avaient fait auparavant de leurs ancêtres. Depuis lors, les gens ne voient plus qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a trois fonctions ou manifestations. Ils savent que, selon l'Écriture, il n'y a qu'un Dieu, mais ils essaient d'accréditer la théorie chimétrique selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisins. Trois personnes ayant la même divinité, partagée également par chacun. Mais ici, dans l'Apocalypse, il est dit clairement que Jésus est celui qui est, qui était et celui qui vient. Il est l'alpha et l'oméga, ce qui signifie qu'il est de A à Z, c'est-à-dire la totalité. Il est tout, le tout-puissant. Il est la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le germe juste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu, le Dieu tout-puissant, un seul Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà ce que dit la Bible. Ici, elle ne dit rien d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième personne. Elle dit que Dieu a été manifesté en chair, un seul Dieu, et ce Dieu unique a été manifesté en chair. La question devrait donc être réglée. Dieu est venu sous une forme humaine. Il n'était pas pour autant un autre Dieu. Il était Dieu, le même Dieu. C'est une révélation à l'époque et c'est une révélation maintenant, un seul Dieu. Reprenons la Bible pour voir ce qu'il était au commencement, d'après la révélation qu'il a donnée de lui-même. Le grand Jéhovah apparaissait à Israël dans une colonne de feu, ange de l'Alliance. Il demeurait dans cette colonne de feu et conduisait Israël jour après jour. Au temple, il annonçait sa venue par une grande nuée. Puis un jour, il a été manifesté dans un corps né d'une vierge qui était préparé pour lui. Le Dieu qui avait eu sa demeure au-dessus des tentes d'Israël avait maintenant revêtu une tente de chair. Et il avait sa demeure parmi les hommes, étant en forme d'un homme, mais il était le même Dieu. La Bible enseigne que Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. On lui demeurait toute la plénitude de la divinité, corporellement. Rien ne peut être plus clair que cela. Mystère, oui, et pourtant vrai. Cela ne peut pas être plus clair. Donc, s'il n'était pas trois personnes à l'époque, il ne peut pas être trois personnes maintenant. Un seul Dieu, et ce même Dieu a été fait chair. Jésus a dit, « Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. » Jean chapitre 16, versets 27 et 28. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a disparu de la terre par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Ensuite, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a parlé à Paul et lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il lui répondit, « Je suis Jésus. » Il était une colonne de feu, une lumière aveuglante. Il avait repris cette forme, exactement comme il avait dit qu'il allait le faire. Il avait repris la forme qu'il avait avant de revêtir un tabernacle de chair. C'est exactement comme cela que Jean a vu la chose. Jean chapitre 1er verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein de Dieu et celui qui l'a fait connaître. Remarquez où Jean dit que Jésus est. Il est dans le sein du Père. Luc chapitre 2 verset 11 dit « C'est aujourd'hui dans la vie de David il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est né le Christ et 8 jours après, quand il a été circoncis, il a été appelé Jésus, comme l'ange de l'air avait dit. Je suis né Branham. À ma naissance, on m'a donné le nom de William. Il était Christ, mais il lui a été donné un nom ici-bas, parmi les hommes. Cette demeure que les hommes voyaient de l'extérieur s'appelait Jésus. Il était le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant manifesté dans la chair. Il est Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout cela. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres. Ce ne sont pas des noms. C'est pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est un nom, pas un titre. C'est le nom de ce titre. Tout comme on prend un bébé, un nouveau-né qui est fils, pour lui donner un bébé, c'est ce qu'il est. Fils, c'est le titre. Ensuite, vous lui donnez un nom, Jean-Henri Lebrun. Il ne suffit pas de baptiser au nom de Jésus. Il y a des milliers de Jésus dans le monde. Il y en avait même avant Jésus, notre Sauveur. Mais il n'y en a qu'un parmi eux qui soit né comme étant le Christ, Seigneur Jésus-Christ. Des gens disent que Jésus est le Fils éternel de Dieu. N'est-ce pas là une contradiction? Qui a jamais entendu parler d'un Fils qui soit éternel? Les fils ont un commencement, mais ce qui est éternel n'a pas eu de commencement. Il est le Dieu éternel, Jéhovah manifesté dans la chair. Dans l'évangile de Jean, il est dit, « Au commencement était la parole. » Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il était le témoin fidèle et véritable de la parole éternelle du Père. Il était prophète et pouvait dire ce que le Père l'est chargé de dire. Il a dit, « Mon Père est en moi. » C'est là ce qu'a dit Jésus, le tabernacle, « Mon Père est en moi. » Dieu a beaucoup de titres. Notre justice, notre paix, toujours présent, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il n'a qu'un seul nom humain, et ce nom, c'est Jésus. Ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a trois fonctions, ou qu'il se manifeste de trois façons. Sur terre, il était prophète. Au ciel, il est le sacrificateur. Et quand il revient sur terre, il est roi des rois. C'est lui qui était, c'est-à-dire Jésus, le prophète. C'est lui qui est, c'est-à-dire lui, le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses, qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient. Sur terre, il était la parole, le prophète. Moïse a dit de lui, « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, et celui qui n'écoutera pas les paroles de ses prophètes sera exterminé du milieu du peuple. » Notez les faits suivants au sujet de Jésus. Sur terre, il était prophète, agneau et fils. Il n'était pas trois pour autant. Ce n'était que des manifestations ou des fonctions de la même personne, Jésus. Or, il y a un passage de l'Écriture qui a la faveur des Trinitaires, qui pense qu'il prouve leur idée selon laquelle il y en a fait plus qu'une personne de la divinité. C'est Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 8. Et je vis, au milieu des trônes et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit les livres à la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand lui eut pris les livres, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils ont chacun une harpe et sept coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. En effet, ces versets pris isolement sembleraient leur donner raison. Je dis bien s'ils sont pris isolement. Cependant, lisez Apocalypse chapitre 4, versets 2 et 3, et 9, 11. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Remarquez bien qu'au verset 2, il est dit que quelqu'un, pas deux, pas trois, mais un, était assis sur le trône. Au verset 3, il est dit que c'est lui, pas ceux, qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Au verset 9, il est dit que les êtres vivants rendent honneur à celui, pas ceux. Au verset 10, il est dit que les vieillards se prosternent devant celui, pas ceux. Au verset 11, il est dit qu'ils criaient, « Tu es digne, notre Seigneur, pas nos seigneurs. » Il est également dit au verset 11 que c'est lui qui était sur le trône était le Créateur, qui est Jésus. Jean chapitre 1, verset 3, qui est le Dieu Esprit Jéhovah de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 1, verset 1. Mais ne nous arrêtons pas là. Lisez maintenant Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Lisez aussi Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qu'il lui avait réservée à souffrir à la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Remarquez que, d'après Jésus lui-même qui a écrit l'Apocalypse, il s'est assis avec le Père. L'Esprit qui était en Paul, cet Esprit est l'Esprit de Christ, car c'est l'Esprit des prophéties par lesquelles vient la parole, dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mais quand Jean a regardé, il n'en a vu qu'un seul sur le trône. Et ce n'est qu'en Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 8, qui succède à Apocalypse chapitre 4, versets 2 et 3, dans les temps, que nous voyons l'agneau prendre les livres de celui qui, comme il est indiqué dans Apocalypse chapitre 4, versets 2 et 3 et versets 9 et 10, était assis sur le trône. Qu'est-ce que c'est? C'est le mystère d'un seul Dieu. Lui, Jésus, est sorti de Dieu. Il a été manifesté dans la chair. Il est mort et est ressuscité. Il est retourné dans le sein du Père. Comme Jean l'a dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 18. Le moment était maintenant arrivé où Dieu, le Messie, devait venir prendre son épouse pour ensuite se présenter, se faire connaître à Israël. Nous voyons là que, de nouveau, Dieu entreprend avec l'homme une relation sur le plan physique en tant que fils de David, roi des rois et seigneur des seigneurs, et époux de l'épouse des nations. Ce n'est pas deux dieux, mais simplement un Dieu qui manifeste ses trois puissantes fonctions et ses titres. Les gens savaient qu'il était prophète. Ils connaissaient les signes du Messie, qui ne pouvait venir que par les prophètes. Jean chapitre 1, versets 44 à 51. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dis-je Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » À cause de cette faculté de discerner les pensées du cœur de l'homme, l'élu de Dieu a reconnu qu'il s'est trouvé devant le Messie, la parole ointe de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand la femme au puits l'a entendu discerner les pensées qu'elle avait dans le cœur, elle a proclamé comme prophète, en déclarant que c'est à cette glorieuse faculté qu'on reconnaîtrait le Messie. Jean chapitre 4, verset 7 à 26. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? » Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 3, il est dit, et il chante les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des saints. Voyez-vous, l'agneau, le souverain sacrificateur qui présente son sang sur les propitiatoires comme expiation pour nos péchés, est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est là sa fonction présente. C'est ce qu'il fait actuellement. Il intercède en présentant son sang pour nos péchés. Mais un jour, cet agneau deviendra le lion de la tribu de Juda. Il viendra avec gloire et puissance pour prendre autorité et régner comme roi. Il est le roi qui viendra régner sur cette terre. Évidemment, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas roi maintenant. En effet, il est notre roi, le roi des saints. En ce moment, c'est un royaume spirituel. Celui-ci n'appartient pas au système de ce monde, tout comme nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela que nous n'agissons pas comme le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance, dont le roi est Jésus. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'homme, qu'elles ne se coupent pas les cheveux et qu'elles n'utilisent pas tous ces produits de maquillage et autres qui sont tellement prises dans le monde. Voilà pourquoi nos hommes ne boivent pas, ne fument pas et ne vivent pas dans les péchés. Notre domination est une domination sur les péchés et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces, mais le nôtre subsistera. Nous venons de parler des fonctions et des manifestations du seul vrai Dieu, et nous avons contemplé sa gloire par une étude de l'Écriture. Mais on ne peut pas les connaître intellectuellement. C'est spirituellement qu'on les connaît, par une révélation spirituelle. Celui-là même qui, selon la chair, était connu comme Jésus, est redevenu la colonne de feu. Mais il a promis qu'il reviendrait pour habiter parmi son peuple par l'Esprit. Et le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu est descendue et s'est séparée en langue de feu sur chacun d'eux. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il se répartissait dans l'Église en donnant à tous ses hommes et femmes une partie de lui-même. Il s'est réparti dans son Église, tout comme il avait dit qu'il le ferait. Jean chapitre 14, versets 16 à 23. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le mérirai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il a dit qu'il prierait le Père qui enverrait un autre consolateur qui était déjà avec eux, les disciples, mais pas en eux. Il s'agissait du Christ. Ensuite, au verset 23, en parlant de lui-même et du Père, il dit, « Nous viendrons. » Voilà, l'Esprit vient, le même Esprit de Dieu qui s'est manifesté comme Père, comme Fils et qui se manifestera encore en plusieurs. Un seul Dieu qui est Esprit. C'est pourquoi personne ne pourra jamais venir dire que le Saint-Homme, c'est un pape, ou que le Saint-Homme, c'est un évêque ou un prêtre. Le Saint-Homme, c'est Christ, le Saint-Esprit en nous. Comment la hiérarchie ose-t-elle déclarer que les laïcs n'ont rien à dire? Chacun a quelque chose à dire, chacun a un travail, chacun a un ministère. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et s'est réparti sur chacun afin qu'il s'accomplisse ce que Christ a dit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean chapitre 14, verset 20. Le grand Je suis, le Dieu Tout-Puissant, est venu comme Esprit pour remplir sa véritable Église. Il est en droit d'agir là où bon lui semble et sur qui il veut. Nous n'établissons pas quelques hommes saints parmi nous, mais la véritable assemblée du Seigneur tout entière est sainte, à cause de la présence du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est saint et non l'assemblée par elle-même. Voici donc la révélation. Jésus-Christ est Dieu. Le Jéhovah est l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau. Vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a trois dieux. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu'il est un. Il faut une révélation pour voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Satan s'est sournoisement introduit dans l'Église et a rendu les gens aveugles à cette vérité. Et une fois qu'ils y ont été aveuglés, il n'a pas fallu longtemps avant que l'Église de Rome cesse de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au séjour de la divinité, en ces jours où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Mais l'Église victorieuse, la triomphante, est bâtie sur la révélation. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Dieu nous révèle sa vérité. Vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau. C'est déjà là, en plein devant vous. Serait-il possible, un seul instant, que les apôtres soient conduits à dévier d'un ordre provenant directement du Seigneur, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour désobéir volontairement? Ils savaient bien quel était le nom, et il n'y a aucun passage de l'Écriture où ils aient baptisé autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le simple bon sens vous dirait que le livre des Actes, c'est l'Église en action, et qu'ils baptisaient de cette manière. C'est ainsi qu'il faut baptiser. Et si vous trouvez cette déclaration trop forte, que dites-vous de celle-ci? Quiconque n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus devait être rebaptisé. Actes chapitre 19, versets 1 à 6. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé de certains disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Ils lui dirent, « Mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. » Il dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisé ?» Et ils dirent, « Du baptême de Jean. » Et Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il crusse en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. » Version Darby. Nous y voilà. Ce brave Jean, à Éphèse, avait entendu parler du Messie qui devait venir. Jean l'avait prêché. Ils avaient été baptisés en repentance de leurs péchés, en s'attendant à croire à Jean à l'avenir. Mais maintenant, c'était le moment de regarder en arrière vers Jésus, qui était venu et d'être baptisé pour la rémission des péchés. C'était le moment de recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Oh, ces braves gens d'Éphèse étaient d'excellentes personnes. Si quelqu'un était en droit de se sentir en sécurité, c'était bien eux. Remarquez jusqu'où ils étaient parvenus. Ils en étaient arrivés jusqu'à pouvoir accepter le Messie qui devait venir. Ils étaient prêts à le recevoir. Mais ne voyez-vous pas que, malgré cela, il avait manqué? Il était venu et il était parti. Ils avaient besoin d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Si vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous remplira de son esprit. C'est la parole, Actes chapitre 19, verset 6, que nous avons lu, était l'accomplissement d'Actes 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, Paul, par le Saint-Esprit, a dit exactement ce que Pierre avait dit par le Saint-Esprit. Et ce qui a été dit ne peut pas être changé. Cela doit rester la même chose depuis la Pentecôte jusqu'à ce que le tout dernier élu ait été baptisé. Galates chapitre 1er verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Mais quelques-uns d'entre vous, les unitaires, baptisez de la mauvaise manière. Vous baptisez pour la régénération, comme si le fait d'être immergé dans l'eau vous sauvait. La régénération ne vient pas par l'eau. Elle est une œuvre de l'Esprit. L'homme qui, par le Saint-Esprit, a donné l'ordre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, n'a pas dit que l'eau régénère. Il a dit que c'était seulement le témoignage d'une bonne conscience envers Dieu. Rien de plus. 1er Épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Je le crois. Si quelqu'un a l'idée erronée que l'histoire prouve qu'il faut baptiser d'eau autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome en l'an 100 de notre ère et qui a été reproduit dans le magazine Time du 5 décembre 1955. Le diacre leva la main et Publius Decius entra par la porte du baptistère. Debout, dans l'eau jusqu'à la ceinture, c'était Marcus Vasca, le marchand de bois. Il sourit, tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. « Crédis, lui demanda-t-il. « Credo, répondit Publius. « Je crois que mon salut vient de Jésus, le Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui, afin d'avoir avec lui la vie éternelle. » Il sentit alors deux bras musclés qui les soutenaient, tandis qu'il se laissait tomber en arrière dans le bassin, il entendit près de son oreille la voix de Marcus. « Je te baptise au nom du Seigneur Jésus. » Et l'eau froide se referma sur lui. En ces temps-là, et jusqu'à ce que la vérité soit perdue, c'est-à-dire au concile de Nicée, on avait toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité perdue ne devait revenir qu'au dernier âge, soit au début de notre siècle. Mais elle est revenue. Satan ne peut pas empêcher la révélation de paraître quand l'Esprit veut la donner. Oui, s'il avait trois dieux, vous pourrez bien baptiser pour un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Mais la révélation donnée à Jean était qu'il y a un seul Dieu et que son nom est Seigneur Jésus-Christ, et que l'on baptise pour un Dieu et un seul. C'est pour cela que Pierre a baptisé comme il a fait à la Pentecôte. Il devait être fidèle à la révélation qui était que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait à la fois Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le voilà, le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est à la fois Seigneur et Christ, alors, lui, Jésus, il est et ne peut pas être autre chose que Père, Fils et Saint-Esprit, en une seule personne manifestée dans la chair. Ce n'est pas Dieu en trois personnes, Trinité bénie, mais un seul Dieu, une seule personne qui a trois titres principaux avec trois fonctions qui manifestent ces titres. Écoutez-les de nouveau. Ce même Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Le Seigneur, le Père, et le Christ, le Saint-Esprit, sont Jésus. Car, lui, Jésus, il est les deux à la fois Seigneur et Christ. Si nous ne pouvons pas voir là la véritable révélation de la divinité, nous ne la verrons jamais. Le Seigneur n'en est pas un autre. Le Christ n'en est pas un autre. C'est Jésus et le Seigneur Jésus-Christ, un seul Dieu. Un jour, Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Moi et le Père, nous sommes un. » Une fois, comme j'ai cité cela, une dame m'a dit, « Un instant, Monsieur Branham, vous et votre épouse êtes un? » Je répondis, « Pas de cette façon-là. » Elle a dit, « Pardon? » Alors je lui ai demandé, « Mais voyez-vous? Elle a dit oui. Je demandai, voyez-vous mon épouse? Elle a dit non. J'ai dit, alors, cette unité-là est d'une autre nature, car il a dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Le prophète a dit qu'il y aura de la lumière au temps du soir. Dans les cantiques, il est dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Les sentiers de la gloire, là tu les trouveras. C'est dans la voie de l'eau que la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, répentez-vous de tous votre péché. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Il n'y a pas très longtemps, je parlais à un rabbin juif. Il me disait, vous autres, les gens des nations, vous ne pouvez pas partager Dieu en trois et servir cela à un juif. Nous en savons plus que cela. Je lui ai répondu, justement, monsieur le rabbin, nous ne partageons pas Dieu en trois. Vous croyez les prophètes, n'est-ce pas? Il a dit, bien sûr que oui. Croyez-vous Ésaïe chapitre 9, verset 6? Oui. De qui les prophètes parlaient-ils? Du Messie. J'ai dit, que sera le Messie par rapport à Dieu? Il a dit, il sera Dieu. J'ai dit, c'est exact. Amen. Vous ne pouvez pas faire de Dieu trois personnes ou trois parties. Vous ne pouvez pas dire à un juif qu'il y a un Père, et un Fils, et un Saint-Esprit. Il vous dira tout de suite d'où cette idée-là est venue. Les juifs savent que ce credo a été établi au Concile de Nicée. Pas étonnant qu'ils nous traitent de païens. Nous parlons d'un Dieu qui ne change pas. Les juifs aussi croient cela. Seulement, l'Église a changé ses dieux immuables de 1 à 3. Mais la lumière revient au temps du soir. Comme c'est frappant de voir que cette vérité revient au moment où les juifs retournent en Palestine. Dieu et Christ sont un. C'est Jésus et à la fois Seigneur et Christ. Jean avait la révélation et Jésus était la révélation. Il s'est présenté ici même dans ce passage de l'Écriture. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par une capacité humaine, naturelle, mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Mais, bien que ça soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit ensuite, et ensuite seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ, Dieu le Oint. Personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Nous avons accepté la Bible, nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Cependant, pour la plupart des gens, elle n'est toujours pas réelle, parce qu'il n'y a pas de révélation par l'Esprit. La parole n'a pas été vivifiée. La Bible a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, que nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Saisissez-vous? Elle dit que nous sommes la justice même de Dieu lui-même en étant en Christ. Elle dit que lui, Jésus, est devenu péché pour nous. Elle ne dit pas qu'il est devenu pécheur, mais qu'il est devenu péché pour nous, afin que par notre union avec lui, nous devenions la justice de Dieu. Si nous acceptons le fait, et il nous faut l'accepter, qu'il est littéralement devenu péché pour nous en se substituant à nous, alors nous devons aussi accepter le fait que, par notre union avec lui, nous sommes devenus la justice même de Dieu. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Accepter l'un, c'est accepter l'autre. Nous savons bien que la Bible a dit cela. On ne peut pas le nier, mais il en manque la révélation. Le fait n'est pas réel pour la plupart des enfants de Dieu. C'est un bon verset de la Bible, sans plus. Mais il doit être rendu vivant pour nous. Pour cela, il en faudra la révélation. Je vais ajouter quelque chose ici qui va à la fois vous étonner et vous aider. Il n'y a guère d'érudits qui ne croient pas que le Nouveau Testament original était en grec. Tous nos grands érudits en ce qui concerne la Bible ont dit que Dieu a donné au monde trois grandes nations avec trois grands apports à la cause de l'Évangile. Il nous a donné les Grecs qui ont donné une langue universelle. Il nous a donné les Juifs qui nous ont donné la vraie religion et la vraie connaissance de Dieu à travers le Sauveur. Il nous a donné les Romains qui nous ont donné un empire unifié avec un appareil juridique et un réseau routier. Ainsi, nous avons la vraie religion, la langue qui permet de la transmettre à de nombreux peuples, et l'État et les routes qui constituent des conditions matérielles favorables à sa diffusion. Et historiquement, Cela semble être tout à fait vrai. Et aujourd'hui, nos hellénistes disent que les Grecs de l'époque biblique est d'une si parfaite exactitude que, si l'étudiant du texte grec est un grammairien expert et précis, il peut véritablement savoir ce qu'enseigne la parole du Nouveau Testament. Mais ceci n'est-il pas qu'une théorie? Est-ce exact? N'est-ce pas plutôt que chaque helléniste de renom d'une certaine dénomination conteste un autre helléniste d'une autre dénomination? Et n'est-ce pas que leurs arguments sont fondés sur des mots grecs identiques et des règles de grammaire identiques? Assurément, c'est vrai. Déjà à l'âge de Pergame, juste avant le concile de Nicée de l'an 325, deux grands érudits, Arius et Athanase, se sont enfermés dans un affrontement doctrinal au sujet des mots grecs. Leur débat était devenu si intense et si universel que les historiens ont dit que le monde était divisé sur une diphtongue, le son de deux voyelles en une seule syllabe. Or, si le grec est à ce point parfait et prévu par Dieu, pourquoi un tel débat? Certainement, Dieu n'avait pas prévu que nous devrions tous connaître les Grecs. Aujourd'hui encore, on se dispute au sujet du grec. Prenons par exemple le livre « Radiographie de l'Église paralysée du Christ » du docteur Marc Croissant. L'auteur s'appuie sur de nombreuses citations de plusieurs illustres spécialistes de la grammaire grecque pour fonder sa conviction comme quoi les règles immuables de la grammaire grecque prouvent de façon concluante que la Bible enseigne qu'on est baptisé du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Puis il déclare carrément que les femmes peuvent prêcher, car prophétiser signifie prêcher. Mais a-t-il convaincu d'autres hellénistes aussi qualifiés que lui? Jamais. Il vous suffit de lire ce que disent les érudits qui défendent la vie opposée en citant des passages bien étudiés. Or, non seulement ce que je viens de dire est vrai, mais nous allons faire un pas de plus. Aujourd'hui, nous avons des érudits qui déclarent que le manuscrit original était écrit en araméen, qui était la langue de Jésus et des gens de son époque. Ils affirment que les gens ne s'exprimaient pas oralement et par écrit en grec, comme on le croit si souvent. Il faut reconnaître que nos historiens sont divisés sur cette question. Par exemple, le docteur Schofield, un brillant spécialiste, s'appuie sur ses recherches pour fonder sa conviction que le Nouveau Testament est écrit dans la variante populaire du grec de l'époque. Il démontre admirablement bien ses points de vue, en s'appuyant sur ses divers documents dont il dispose. Par contre, nous avons un autre éminent spécialiste, le docteur Lamsa, qui, lui, est convaincu que le Nouveau Testament est écrit en araméen, et c'est nul autre que Tony B., le brillant historien, qui appuie son opinion sur laquelle l'araméen, et non les grecs, était la langue du peuple, ce qui laisse à penser que le Nouveau Testament peut avoir d'abord été écrit en araméen. Cependant, avant de nous inquiéter outre mesure de cette question, lisons la version du roi Jacques, de même que la traduction du docteur Lamsa. Nous constatons avec joie que les deux versions, chose étonnante, utilisent des termes identiques, de sorte qu'il n'y a pas, en fait, de différence de contenu ou de doctrine. Nous pouvons même conclure que Dieu a permis que ces manuscrits découverts récemment, ainsi que d'autres qui étaient déjà connus et qui viennent d'être publiés, nous arrivent pour prouver l'authenticité de ce que nous avions déjà. Nous voyons ainsi que, même si les traducteurs sont en désaccord entre eux, ce n'est pas le cas des manuscrits. Vous voyez maintenant qu'on ne peut pas fonder l'interprétation sur la connaissance profonde qu'a un spécialiste de la langue dans laquelle la Bible est écrite. Voici pourtant encore un dernier exemple, pour vous qui ne pouvez toujours pas le voir parce que votre esprit est voilé par la tradition. Nul doute que les scribes, les pharisiens et les grands érudits de l'an 33 après Jésus-Christ avaient une connaissance exacte des règles de grammaire et du sens des mots du texte de l'Ancien Testament. Cependant, malgré leur éblouissante connaissance, ils ont manqué la révélation de la parole promise de Dieu manifestée dans les fils. Ils se trouvaient présentés de la Genèse jusqu'à Malachie, des chapitres entiers étant consacrés à lui et à son ministère, et pourtant, à part quelques-uns qui étaient éclairés par l'Esprit, ils l'ont totalement manqué. Nous en arrivons maintenant à une conclusion, conclusion que nous avons déjà trouvée dans la parole. Bien que nous croyons qu'il est bon de chercher à obtenir le manuscrit le meilleur et le plus ancien pour avoir la transcription la plus fidèle possible de la parole, nous ne trouverons jamais son sens véritable en étudiant et en comparant les Écritures, quelle que soit notre insincérité. Seule une révélation provenant de Dieu pourra les rendre claires. C'est exactement ce que dit Paul. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. La véritable révélation, c'est quand Dieu interprète sa propre parole en confirmant ce qui est promis. Toutefois, que personne ne comprend mal ce que j'ai dit et pense que je ne crois pas à l'exactitude de la parole telle que nous l'avons aujourd'hui. Je crois que cette Bible est exacte. Quand il était ici sur terre, Jésus a parfaitement établi l'authenticité de l'Ancien Testament et celui-ci a été composé exactement comme le Nouveau Testament que nous avons. Ne vous y trompez pas, nous avons la parole infaillible de Dieu aujourd'hui et que personne n'ose en retrancher ou y ajouter quelque chose. Mais il faut que le même esprit qui l'a donné nous l'enseigne. Oh, combien nous avons besoin de révélations par l'Esprit. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Bible. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle traduction, bien que certaines soient excellentes, et je ne suis pas contre. Mais nous avons besoin de la révélation de l'Esprit. Et grâce à Dieu, nous pouvons avoir ce qu'il nous faut, car Dieu veut nous révéler sa parole par son Esprit. Que Dieu, par son Esprit, commence à nous donner une révélation continue, victorieuse et source de vie. Oh, si seulement l'Église pouvait recevoir une révélation toute fraîche et devenir par cette révélation la parole vivante manifestée, alors nous pourrions accomplir les plus grandes œuvres et glorifier Dieu notre Père Céleste. Délivré du péché. Apocalypse chapitre 1 verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Le mot traduit par laver, en fait, signifie délivré. Nous a délivré de nos péchés par son sang. N'est-ce pas merveilleux? Mais êtes-vous axé sur les choses spirituelles? Avez-vous saisi? C'est son propre sang qui nous a entièrement délivré du péché. Ce n'était pas un sang humain, c'était le sang de Dieu. Pierre l'appelle le sang de Christ. Paul l'appelle le sang du Seigneur et le sang de Jésus. Pas trois personnes, mais une seule personne. Voilà encore cette révélation. Un seul Dieu. C'est Dieu Jéhovah omnipotent et descendu. Il s'est fait un corps au moyen d'une naissance virginale et l'y a habité afin que ce soit le sang de Dieu qui nous libère, nous délivre entièrement de nos péchés et qui nous fasse paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse. Voulez-vous un type de l'Ancien Testament? Retournons au Jardin d'Éden. Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire, que le fils Adam était perdu, est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce un fils qu'il a envoyé? Est-ce un autre de nos semblables qu'il a envoyé? Non, il est venu lui-même racheter ses fils perdus. Alléluia! Dieu n'a pas confié à un autre son plan de salut. Il ne s'est fié qu'à lui-même. Dieu s'est fait chair, a habité parmi nous et nous a rachetés pour lui-même. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le Dieu éternel a habité dans un corps mortel pour ôter les péchés. Il est devenu l'agneau pour verser son sang et entrer avec ses sangs à l'intérieur du voile. Considérez ceci, puisque c'est le sang de Dieu, c'est un sang parfait, et si le sang parfait nous délivre du pouvoir, de l'esclavage et de la souillure du péché, alors la délivrance est parfaite et entière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui déclare que nous sommes justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Voilà. Sa mort nous a donné le sang. Le sang nous a libérés. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Comment pourrait-il y en avoir? Il n'y a pas de motif de condamnation parce que le sang nous a délivrés du péché. Nous sommes libres, non coupables. N'écoutez pas les hommes, écoutez la parole. Vous êtes délivrés par le sang. Maintenant, ne vous laissez pas de nouveau lier par les traditions, les credos et les organisations. Ne vous laissez pas détourner en écoutant ceux qui nient la puissance de la parole et qui nient que Jésus sauve, guérit, rempli du Saint-Esprit et de puissance. Vous êtes des hommes libres de Dieu, libérés par son propre sang. Si vous accrochez encore votre foi à des credos et des dénominations, c'est une preuve certaine que vous avez perdu votre foi en la parole. Roi et sacrificateur. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous. Oh, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Celle-ci en est une. Lui a fait de nous. Le salut, c'est son œuvre. Le salut vient de l'Éternel, tout par grâce. Il nous a rachetés dans un but. Il nous a acquis dans un but. Nous sommes des rois spirituels. Oh, nous allons être rois avec lui sur la terre quand il sera assis sur son trône. Mais maintenant, nous sommes des rois spirituels et nous régnons sur un royaume spirituel. Il est dit dans Romains chapitre 5 verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance, la grâce et les dons de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et dans Colossiens chapitre 1 verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume, le règne du Fils de son amour. Maintenant même, nous régnons avec Christ, ayant la domination sur les péchés, le monde, la chair et le diable. Nous publions ses louanges et sa gloire. Nous le montrons, lui, car c'est Christ en nous qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, assurément, maintenant même, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et a fait de nous des sacrificateurs. Oui, des sacrificateurs pour lui, offrant la louange spirituelle des lèvres sanctifiées, dédiant notre vie comme une offrande agréable pour lui, l'adorant en esprit et en vérité, intercédant et suppliant, des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Pas étonnant que le monde ne nous attire pas et que nous soyons des gens singuliers, zélés pour les bonnes œuvres. Nous avons été recréés en lui pour être des enfants semblables à notre Père. Le Dieu qui vient. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Les prophètes viennent. Les sacrificateurs et rois viennent. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Il vient. Il vient dans les nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de domination seront dans les deuils, et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie, chapitre 12, versets 9 à 14. Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur le point d'arriver. Écoutez, en ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ces jours même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ses deux témoins, ses deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même les gens des nations le ramèneront tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Oh, rappelez-vous ce que nous avons lu dans Apocalypse et dans Zacharie. Ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. L'église des premiers-nés ne passe pas par la tribulation. Nous savons cela. La Bible l'enseigne. Il est dit qu'à ce moment-là, Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. C'est le même esprit qui a été répandu sur les gens des nations à leur époque. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Le pays sera dans les deuils, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, et chacune des maisons à part, quand ils viendront dans les nuées de gloire à sa seconde venue. Ces Juifs qui l'ont percé les verront, comme il est dit dans un autre passage de l'Écriture, d'où te viennent ces blessures? Et il répondra, de la maison de mes amis. Non seulement ce sera un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté comme Messie, mais ce sera un temps de deuil pour ceux des gens des nations qui resteront, ceux qui l'auront rejeté en tant que sauveur de notre époque. Il y aura des pleurs et des lamentations. Les vierges endormies se lamenteront. Elles représentent l'Église qui a refusé de recevoir l'huile, symbole du Saint-Esprit, dans sa lampe, symbole du corps du vase de l'huile, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas des gens de bien, elles étaient vierges, ce qui signifie qu'elles étaient d'une haute moralité, Mais comme elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, elles ont été rejetées là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Voyons comment tout ceci est typifié dans Genèse, chapitre 45, là où Joseph rencontre ses frères en Égypte et se fait connaître à eux. Genèse, chapitre 45, versets 1 à 7. Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui. Et il cria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et personne ne s'éteint auprès de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il laissa éclater sa voix en pleurs, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est dans le pays, et il y a encore 5 ans, pendant lesquels il n'y aura ni labour, ni moisson, et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver des restes sur la terre, et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. » Version Darby. Ce passage se compare-t-il pas merveilleusement avec Zacharie 12? En les réunissant, nous allons forcément les voir exactement comme il faut. Très jeune, Joseph était haï par ses frères. Pourquoi était-il haï par ses frères? C'est parce qu'il était spirituel. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir ses visions, pas plus qu'il ne pouvait s'empêcher d'avoir des songes et d'interpréter. C'était en lui. Il ne pouvait pas manifester autre chose que ce qui était en lui. C'est pourquoi la haine de ses frères envers lui était sans cause. Mais il était le chéri de son père. Son père, qui était prophète, comprenait. Ceci nous donne un type parfait de Christ. Dieu le Père aimait les fils, mais les frères, les scribes et les pharisiens, les haïssaient, parce qu'ils pouvaient guérir le malade, faire des miracles et prédire l'avenir, avoir des visions et les interpréter. Ils n'avaient là aucune raison de les haïr, mais ils l'ont haï. Et, comme les frères de Joseph, ils l'ont haï sans cause. Maintenant, rappelez-vous comment ces fils de Jacob ont traité Joseph. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils ont pris sa tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait donnée et l'ont trempé dans le sang pour faire croire à son père que le garçon avait été tué par une bête. Ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves qui l'ont amené en Égypte, où il a été revendu à un général. La femme de ce général l'a fait emprisonner à tort. Mais après un certain temps, sa faculté de prophète lui a valu l'intention de Pharaon. Et il a été élevé à la droite de Pharaon, avec une autorité telle que personne ne pouvait venir à Pharaon sans d'abord passer par Joseph. Examinons maintenant la vie de Joseph en Égypte, car c'est là que nous voyons en lui le type parfait de Christ. Pendant son séjour dans la maison du général, il est accusé faussement, puni et emprisonné sans cause, tout comme l'a été Jésus. Une fois en prison, il interprète les songes, les chansons et celui du panetier qui sont emprisonnés avec lui. Les chansons retrouvent la vie, mais l'autre est condamné à mort. Christ a été emprisonné sur la croix, abandonné des dieux et des hommes. De chaque côté de lui se tenait un brigand, l'un est mort spirituellement, mais l'autre a reçu la vie. Et remarquez qu'une fois descendu de la gloire, Jésus a été élevé au ciel, qu'il est maintenant assis à la droite du glorieux Esprit de Jéhovah, et que personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est tout ce qu'il vous faut. Il n'y a pas de mari ni de saint, mais seulement Jésus. En continuant à considérer ce type que nous trouvons en Joseph, remarquez comment tout ce qu'il entreprenait en Égypte prospérait. Son premier travail chez le général a prospéré. Même la prison a prospéré. Quand Jésus reviendra, le désert s'épanouira comme une rose. Il est le fils de la prospérité. Tout comme aucun âge n'a jamais prospéré autant que celui où Joseph gouvernait, de même une période de bénédiction telle que le monde n'a jamais connue viendra sur cette terre. Chacun de nous pourra s'asseoir sur son propre figuier et rire, se réjouir et vivre pour toujours dans sa présence. Dans sa présence, il a plénitude de joie et à sa droite, délices éternelles. Gloire à Dieu. Et remarquez que, partout où Joseph allait, on sonnait de la trompette pour annoncer son arrivée. Les gens criaient à genoux devant Joseph. Peu importe ce que l'homme était en train de faire, quand la trompette se retentissait, il fléchissait les genoux. Il pouvait être en train de vendre quelque chose dans la rue, tendant la main pour prendre son argent, mais il devait s'arrêter pour fléchir les genoux quand on sonnait de la trompette. Même s'il était artiste ou acteur, il devait interrompre sa représentation et fléchir les genoux devant Joseph quand on annonçait sa présence au son de la trompette. Et un de ces jours, tout ce qui est dans les temps s'arrêtera quand la trompette de Dieu retentira, que les morts en Christ résisteront et que poindra le matin éternel resplendissant de beauté. À ce moment-là, tout fléchira les genoux, car il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse de nation qui lui a donné deux fils, Éphraïm et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les deux garçons. Il les a placés devant Jacob, Manassé le premier-né à droite de Jacob, Éphraïm à sa gauche. Comme Jacob allait les bénir, il a croisé les mains, alors sa main droite s'est posée sur les cadets. Joseph s'est écrié, « Pas ainsi, père, celui-ci est le premier-né sur ta droite. » Mais Jacob a dit, « Dieu a croisé mes mains. » Et si nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né, les Juifs transmises aux plus jeunes, les gens des nations, par la croix, les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction vient par la croix. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Par la croix, la bénédiction d'Abraham est venue aux gens des nations. Les Juifs ont rejeté la croix, par conséquent Jésus a reçu les pouces des nations. Revenons à l'histoire de Joseph qui rencontre ses frères. Vous vous rappelez que tous les frères n'étaient pas venus. Joseph les savait, et il a insisté pour que tous les frères viennent devant lui, sans quoi il ne pourrait pas se faire connaître à eux. Ils ont fini par faire venir celui qui manquait, le petit Benjamin. C'est le petit Benjamin, le frère réel de Joseph, qui a enflammé son âme. Et quand notre Joseph à nous, Jésus, viendra à ceux qui ont observé les commandements de Dieu et qui sont retournés en Palestine, son âme s'enflammera. Le petit Benjamin est un type des 144 000 Israélites venus de la terre entière qui sont retournés en Palestine pour être rachetés. Ils seront là, prêts à les recevoir et les connaître correctement. Lui, c'est la vie éternelle. Ils diront, « Voici notre Dieu que nous attendions. » Alors, ils verront celui qu'ils ont percé. Et dans leur désarroi, ils s'écrieront, « D'où te viennent ces affreuses blessures? Comment est-ce arrivé ?» Et se lamenteront et pleureront, chaque famille séparément, chacune séparément, accablée de tristesse. Mais où sera l'Église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les deux enfants était dans les palais, car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte. Faites-les tous sortir de devant moi. Donc, l'épouse des nations était cachée dans les palais de Joseph. Où l'Église des nations s'en ira-t-elle dans l'enlèvement? Dans les palais. L'épouse sera enlevée de la terre. Avant la grande tribulation, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pendant 3 ans et demi, alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau. Ensuite, il reviendra se faire connaître ses frères en laissant son épouse dans la maison de son père. À cet instant, l'alliance antichrist que les Juifs auront conclue avec Rome sera brisée. Rome et ses alliés enverront alors leurs troupes détruire les Juifs qui craignent Dieu et qui observent la parole. Mais comme ils s'en prendront à la ville pour la détruire, un signe apparaîtra dans les cieux de la venue du Fils de l'homme avec ses puissantes armées pour détruire ceux qui détruisent la terre. L'ennemi repoussé, Jésus viendra alors se présenter aux 144 000. Ayant vu sa puissance œuvre du salut, ils ont reconnu sa puissance, mais en voyant ses blessures, sachant qu'ils l'avaient rejeté jusqu'alors, ils crieront, accablés de terreur et de crainte, tout comme l'ont fait jadis leurs frères devant Joseph, remplis de la crainte d'être tués. Mais comme disait Joseph, ne voyez pas la chose d'un œil chagrin, tout va bien, Dieu était là-dedans, il l'a fait pour sauver la vie. De même, Jésus leur exprimera paix et amour. Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? Dieu était là-dedans. C'était le seul moyen pour lui de faire sortir les pauvres des nations. Il est mort sur la croix pour sauver la vie de l'Église des nations. Or, ces 144 000 ne sont pas des l'épouse. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 4, ils sont appelés des vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Le fait qu'ils ne se sont pas suivis avec des femmes montre que ce sont des eunuques. Matthieu chapitre 19, verset 12. Les eunuques étaient des gardiens des chambres nuptiales. Ils étaient des serviteurs. Remarquez qu'ils ne sont pas assis sur le trône, mais qu'ils sont devant le trône. Non, ils ne sont pas de l'épouse, mais ils seront dans les glorieux règnes de mille ans. Nous voyons que quand ce dernier reste d'Israël aura été uni au Seigneur dans l'amour et que l'ennemi aura été détruit, Dieu préparera sa montagne sainte, son nouveau jardin d'Éden pour l'épouse et pour les serviteurs de l'époux et de l'épouse, pour la lune de miel de mille ans sur la terre. Comme Adam et Ève étaient dans les jardins et n'ont pas accompli les mille ans, maintenant, Jésus, notre dernier Adam, et son Ève, la véritable Église, accompliront tous les plans de Dieu. Oh, comme la Bible se répète, la scène de Joseph et de ses frères est sur le point de se répéter, car Jésus revient bientôt. Avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention sur une chose au sujet de ces temps de la fin. Vous vous rappelez que quand Joseph s'était né devant ses frères, avant que Benjamin soit avec eux, il leur parlait par un interprète, même s'il connaissait bien l'hébreu. Il parlait à ses frères dans une autre langue. Savez-vous que le premier âge des nations, la tête d'or, l'âge babylonien, s'est terminé avec un message en langue inconnue écrit sur une muraille? Cet âge-ci se terminera de la même manière. L'abondance des langues à notre époque est encore une preuve que le temps des nations est terminé et que Dieu se tourne de nouveau vers Israël. Il vient bientôt, l'alpha et l'oméga, les prophètes, sacrificateurs et rois, le tout en tout, le Seigneur Dieu des armées revient bientôt. Oui, Seigneur Jésus, seul et unique vrai Dieu, vient bientôt.